Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore avec vous pour l'émission Vivement les femmes. Mon invitée du jour est Sergina Guéry, présidente fondatrice de l'agence événementielle. Sergina Guéry a donné des coups de barre à sa vie. D'abord, elle a quitté la Guadeloupe pour s'établir au Québec il y a 20 ans. Ensuite, elle a quitté un bon emploi pour devenir travailleuse autonome, puis entrepreneur dans l'industrie de l'événementiel. Au-delà du volet festif de son entreprise se trouve la réponse aux besoins de contact humain, son besoin à elle et plus généralement, le besoin qu'ont les gens de se rapprocher. Bonjour Sergina Guéry.
Bonjour Marjorie.
Alors déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très contente de t'avoir au micro. Et puis, on se connaît depuis longtemps déjà. Puis je trouvais important que tu puisses nous entretenir, surtout parce que je trouve que tu as été extraordinaire dans ton parcours. Et puis, tu étais dans un bon emploi pour devenir travailleuse autonome. Ensuite, en tant qu'entrepreneur. Donc, pour moi, c'était tellement important de aussi parler de ce parcours-là pour inspirer d'autres femmes à faire le saut dans le monde des affaires.
Mon Dieu! Merci, oui. Merci à toi, Marjorie, pour l'invitation. Puis je suis ton émission, je suis une grande fan. Donc, j'ai vu aussi les nombreuses femmes inspirantes qui sont passées. Donc, je me sens vraiment privilégiée d'être là aujourd'hui. Donc, un grand merci.
Ça fait plaisir. Donc, Sergina, on va d'abord commencer par là où tu es née, qui est sur l'île paradisiaque de la Guadeloupe.
Oui.
Alors, dis-nous comment était cette petite fille-là, qui est maintenant une femme d'affaires, qui a tout un parcours. Comment que était ton enfance en Guadeloupe?
Ah, écoute, j'ai la chance d'avoir eu une enfance extrêmement heureuse. Donc, c'est sûr qu'on avait des moyens très modestes. J'ai vécu en Guadeloupe, donc avec ma mère et on est quatre filles, donc mes sœurs. Donc c'était une enfance baignée de rire, de sauts à la plage, d'aventures. Mon père, qui était un homme d'affaires également, même si ils n'étaient pas ensemble très longtemps, mais ça, c'est une autre histoire. mais écoute, j'ai eu la chance, premièrement, d'avoir des parents qui m'ont donné énormément d'amour et aussi qui m'ont donné l'ambition.
Oui.
Pour mon père, par exemple, c'était important de voir grand. Lui, il disait tout le temps, vois grand. Il me disait aussi, le travail, c'est le premier mari de la femme, parce que souvent aux Antilles, on sait que il y a des femmes qui se marient pour quitter les parents. Puis non, c'était vraiment, lui, il voulait que je m'accomplisse, ce qui n'est pas le cas de tous les pères. Pareil, ma mère, elle m'a toujours soutenue dans tous mes projets. Les liens familiaux sont très, très forts. Mes sœurs, toute ma famille, mes tantes, mes oncles, peu importe le projet que j'avais.
Oui.
J'ai eu la chance d'avoir vraiment une famille soudée qui m'a toujours poussée à réaliser mes rêves, à m'accomplir. Et c'est ce que j'essaie de transmettre aujourd'hui à ma fille.
Oui.
mais je dirais que vraiment, c'est grâce à eux que j'ai ce petit côté audacieux aujourd'hui. Donc, écoute, c'est des années merveilleuses en Guadeloupe. D'ailleurs, je ne pensais jamais arriver au Québec avec la neige et m'installer. Dans ma tête, c'était comme, non, je vais venir faire des études, puis je vais retourner à la plage juste après. Je vais faire les études pour les parents. Puis finalement, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé.
Ouais, je comprends. Puis, tu as déployé tes ailes au Québec. Puis, est-ce que tu as trouvé ça difficile? Ben, premièrement, l'intégration comme telle, comme citoyenne, et puis après aussi comme professionnelle.
Tout à fait. En fait, il y a eu quand même quelques défis. Je dirais que le Québec, c'est quand même je dirais les Québécois sont très, très accueillants. Mm-hmm. Moi, j'ai eu la chance, encore une fois, À chaque fois que qu'il y avait des liens à créer, c'était les gens s'approchaient de moi. Il faut dire que j'ai souvent un sourire
contagieux.
Oui, c'est ça qui est collé à mon visage. Mais vraiment, quand je faisais mes études, quand j'étais un petit peu intimidée par justement les amphithéâtres ou tout ça, parce que c'est sûr que les études en Guadeloupe versus les études dans une grosse université, c'est pas tout à fait la même chose. Mais les gens étaient particulièrement accueillants. Je dirais que généralement, les Québécois, Québécoises m'ont vraiment accueilli à bras ouverts. Là où j'ai eu peut-être quelques difficultés, ça a été trouver un logement. Donc, quand on arrive et qu'on est... on n'a pas d'historique de crédit, on est noir. Puis la personne, quand j'appelle quelque part, la personne se dit « Ok, j'ai un accent français, elle doit être française, tout va bien. » Puis que quand j'arrive et que la personne me dit « Oui, oui, le logement est disponible. » Puis quand j'arrive et qu'on me voit sur la caméra, « Ah, désolé, il n'est plus disponible. »
Ah oui.
Donc, ce sont des petits détails comme ça, mais c'est vraiment, je dirais, isolé.
Oui.
Sincèrement, ici, que ce soit au niveau des opportunités d'affaires, que ce soit au niveau des liens professionnels que j'ai eus, que ce soit en amitié. Moi, j'ai des personnes que j'ai rencontrées, j'avais 17-18 ans, qui sont encore mes amis plus de 20 ans plus tard. Donc, c'est vraiment des liens solides.
Solides, OK. Oui.
Donc ça, je suis vraiment très, très heureuse de ça. Puis je pense que ça contribue au fait, justement, que je sois restée au final, parce que c'est sûr que, bon, il y a la plage en Guadeloupe, le soleil, tout ça. Ici, il y a la neige, mais les cœurs sont chauds, on va dire.
Ouais.
Voilà.
Tu as fait des études en communication.
Exact.
Et puis, tu as continué complètement dans le domaine de la communication.
C'est ça, exactement. J'ai fait, en fait, j'étais diplômée, j'étais à l'Université du Québec à Montréal. J'ai été diplômée deux fois, la première fois en administration des affaires, parce que mon père, justement, c'était pour faire plaisir à mon père, ce diplôme-là, mon bac en administration des affaires, parce qu'il voulait que j'ai un MBA, il voulait que je gère des grosses entreprises. Et ensuite, après avoir eu mon bac, j'ai fait un deuxième diplôme, justement en communication marketing, et celui-là pour me faire plaisir à moi.
Okay.
Donc c'est ça, et c'est là où j'ai commencé à toucher à tout ce qui était gestion, marketing, communication, un tout petit peu d'événements. Je ne savais même pas à cette époque que je ferais carrière là-dedans.
Oui.
Dans ma tête, j'aurais travaillé... pour une grosse agence de pub. Puis moi, je me voyais faire des campagnes de pub pour des grosses, grosses agences. Mm-hmm. Puis finalement, non, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé.
Moi, je te connais depuis longtemps, puis tu es une personne très énergique.
Merci.
Et positive. Qu'est-ce qui t'apporte ce dynamisme-là qui est aussi contagieux, je dois le dire?
Ah, ben merci. Mais j'avoue que une des choses... Je pense que ça, c'est vraiment ma mère qui m'a transmis ce petit côté. Écoute, on est quatre filles, puis elle a plus d'énergie que nous quatre réunies. Donc, je pense qu'elle m'a toujours appris à voir le verre à moitié plein. Donc, quand il y a une situation qui arrive, OK, toujours voir le côté positif des choses.
Mm-hmm.
Souvent, elle me disait, il ne faut jamais blâmer une contrariété. Parfois, il y a des choses négatives qui arrivent dans ta vie, puis toi, tu es déçue, puis elle me dit... Écoute, si ça t'arrive, il y a une raison pour laquelle ça t'arrive,
oui.
tu comprendras après. Mm-hmm. Tu comprendras après pourquoi c'est arrivé, ne jamais blâmer une contrariété. Et en fait, elle a raison. Mm-hmm. À plusieurs reprises, ça m'est arrivé de me rendre compte que, OK, finalement, je ne sais pas moi, quelque chose est annulé, je suis déçue, puis finalement, c'est une bonne chose parce que telle raison. Donc, je pense que c'est ça la première raison. Mais la deuxième raison, c'est que je suis tellement contente d'être en vie.
Oui.
C'est pour moi, me réveiller le matin, être consciente que je respire, que j'ai plein de possibilités. C'est pas tous les jours comme ça. On s'entend que tout le monde a des downs, tout le monde est un peu plus... y a des hauts et des bas, c'est la vie. Mais généralement, quand je me réveille, je me dis « Oh my God, tellement de possibilités, merci.
Oui. »
Je remercie, puis je dis... OK, let's go. Je suis prête pour une nouvelle aventure. Donc, je le vois vraiment comme
vraiment
ça.
Vraiment comme ça. Ouais. Puis tu as la résilience aussi, là, qui,
oui.
qui est en toi aussi.
Oui.
Je sais que le mot audace est très important pour toi. Qu'est-ce que ça signifie?
L'audace est extrêmement importante. C'est sûr que c'est prendre des risques. Mm-hmm. Prendre des risques, se dépasser, vraiment faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginé qu'on puisse faire. Mm-hmm. D'ailleurs, je ne sais plus qui avait écrit ou dit « Pour qu'il t'arrive des choses extraordinaires, il faut agir de façon extraordinaire. »
Ah ouais.
Donc, parfois, ça me revient. Parfois, quand je suis un peu moins, quand je suis en pantoufle sous ma couette ou quelque chose comme ça, et que je dis « Ah, oh, j'ai envie de rien faire. » Puis surtout après la pandémie, on se dit « Ok, non, si tu veux avoir une vie à la hauteur de tes rêves, il faut que tu fasses quelque chose de différent. Il faut que tu te dépasses, il faut que tu essayes. Mm-hmm. » Tu sais, c'est ce que je me dis à chaque fois. Essaye, tu n'as rien à perdre. Parfois, c'est difficile parce que, bon, il y a le jugement, puis on se dit « Ok, qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce qu'un tel va penser? » Bref, puis j'avais beaucoup plus ça avant. De plus en plus, je me dis « Ok, non, je suis mon intuition, puis, puis j'avance. » Donc, c'est ça, je pense que parce que c'est sûr que les gens qui m'écoutent ne voient pas, mais je suis noire avec les cheveux blonds courts.
Oui.
Puis même le fait d'avoir coupé mes cheveux courts et d'être blonde et de me voir tous les matins dans mon miroir, c'est comme un rappel que, OK, tu as eu l'audace de faire cette coupe de cheveux et de la tenir autant de temps. Mm-hmm. OK, c'est pas tout. Il faut continuer sur cette lancée-là.
Ben
puis,
oui.
Oui, ça fait partie des... C'est comme un tatou.
Tout à fait. Puis c'est ta marque de commerce. Hein,
Ça.
Je t'ai jamais connue avec d'autres couleurs de cheveux. Ça fait tellement d'années. Donc, voilà. Ben écoutez, restez avec nous, chères auditrices et auditeurs. Nous allons revenir après la pause.
Merci.
Never to walk in anyone's shadows. If I fail, if I
De retour avec Sergina Guéry, présidente fondatrice de l'agence événementielle. Sergina, oui. Tu as quitté un bon emploi en communication pour une grande entreprise et pour devenir d'abord travailleuse autonome.
Oui.
Explique-nous là, quelle a été ta réflexion à ce moment-là?
En fait, quand c'était un emploi dans le domaine des assurances que j'aimais beaucoup, justement, c'est là où j'ai organisé aussi quelques événements. Puis, j'avais comme beaucoup d'aspiration à avoir accédé à un poste avec plus de responsabilités. Puis le poste, il n'arrivait pas. Donc, tout le monde était super content, bravo Sergina, mais finalement, le poste, il n'arrivait jamais. Puis je me disais, mais voyons, puis il y avait des personnes qui rentraient dans la compagnie, puis qui allaient à des niveaux supérieurs. Donc, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que moi, je n'arrivais pas à avancer. Puis, donc, je me suis dit, OK, je trouve qu'il y a un manque au niveau professionnel, ben, je vais me créer quelque chose à côté, on the side, comme on dit ici. Et c'est là où, en fait, avant, je n'ai pas quitté mon poste tout de suite pour devenir travailleuse autonome.
Oui.
J'ai vraiment fait les deux en parallèle.
Okay.
Donc, j'avais mon poste à temps plein en communication, événements. Puis, de temps en temps, il y avait des personnes qui me disaient, OK, toi, tu es bonne. Je ne le savais même pas, en fait. Tu organises des petites choses. Est-ce que tu pourrais m'aider pour telle chose? Donc, en communication. Donc, c'était des petits contrats au début. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que, ah, OK, finalement, je commençais avec une, deux clientes, puis ça allait. Donc, je me suis dit, OK, on continue. Puis, j'ai lancé aussi mon propre événement, le Festival Soleil d'hiver. Mais c'est toujours on the side. C'était vraiment parallèlement à mon emploi à temps plein. Puis, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi je me lance pas.
Oui, oui.
En tant que moi-même, en tant que Sergina, travailleur autonome. On dit travailleuse maintenant, travailleuse autonome. C'est là où j'ai vraiment réfléchi. C'était, c'est sûr que mon père est entrepreneur, il avait plusieurs entreprises. Donc, le domaine, ce domaine-là était quand même connu dans le sens où j'avais quand même des modèles. Mais il faut savoir qu'à cette période, moi, j'avais ma fille qui était en bas âge. Ça a été, je me suis dit, OK, je quitte quand même un emploi à temps plein avec assurance collective, tout ce qui vient avec, vers une situation où on s'entend que quand on est travailleur autonome ici, on n'a pas grand-chose.
Ouais.
Mais puis encore là, mes parents m'ont soutenue, toujours. Puis quand j'ai fait le saut, je me suis dit, OK, ma mère, elle dit toujours que Dieu est bon. Donc, que peu importe ce qui se passe, que quand on est une bonne personne, il nous arrive des bonnes choses.
Ouais.
Et donc, quand j'ai décidé de faire le saut, elle était avavec moi, puis elle m'a dit, écoute, peu importe ce qui se passe, je serai là. Et j'ai fait le saut. Et donc, pendant quelques années, j'ai été travailleuse
autonome.
Exact, travailleuse autonome. Communication, événements, puis de plus en plus de clients, de plus en plus de projets, puis finalement, je suis passée de travailleuse autonome à entrepreneur, chef d'entreprise avec une entreprise incorporée.
Puis là, quelle a été la réflexion pour aller vers l'entrepreneuriat?
Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est assez particulier parce que premièrement, il y a tout ce qui est limite, le fameux 30 000 quand on est travailleur autonome.
D'accord.
Alors, est-ce qu'il faut déclarer les taxes, pas déclarer les taxes? Donc, il y a tout ce questionnement qui se passe. Puis, mais il y a aussi que je voulais aller chercher des clients qui étaient vraiment plus gros.
D'accord.
Puis, pour aller chercher ces clients-là, pour la crédibilité aussi de l'organisation, eux, ils avaient besoin de travailler avec une agence et non pas avec une consultante.
D'accord.
Donc, ça a été ça, le petit swift qui a fait en sorte que finalement, je me suis dit, OK, on y va avec une entreprise incorporée. Mais même avec mon agence d'organisation d'événements qui s'appelle Événementiel, avec un C, C-I-E-L, Sky is the Limit.
Oui, c'est ça. Justement, je voulais te poser une question sur le nom événement ciel, C-I-E-L.
C-I-E-L, oui, je trouve ça tellement.
Oh, ouais.
Donc, même avec événementiel, on a, c'est un mix de, justement, employé et travailleur autonome pigiste.
Okay.
Donc, parce que quand on est travailleur autonome, c'est pas tout le monde hein, qui fait du 9 à 5, 5 jours sur 7. On le voit en plus avec la pandémie. Il y a des gens qui veulent travailler juste, je sais pas moi, 20 heures, 28 heures semaine, flexibilité totale et qui sont hyper compétents. Donc, il faut que tout le monde puisse se retrouver. Je veux dire, il y a des gens qui veulent faire du 9 à 5, mais il y en a d'autres qui veulent aménager leur horaire comme ils veulent. Et à partir de ça, je veux dire, moi, je fais partie des personnes qui pensent que si on a un projet et que la personne est bonne et livre ce qu'elle doit livrer, on n'a pas besoin de rester derrière un bureau puis faire du présentéisme. Mais bon, ça, c'est ma façon de penser. Donc, c'est pour ça qu'on travaille vraiment avec les deux.
Avec les deux,
Puis on y va avec... souvent, en entrevue, quand je passe des gens en entrevue, je leur demande, OK, vraiment, est-ce que tu veux être employé? Tu veux être travailleur autonome? Tu veux être pigiste? Tu veux travailler combien de temps? 10 heures, 20 heures, 15 heures, 30 heures? Parce que c'est important que la personne s'épanouisse.
Oui, oui.
Donc, c'est important de poser les bonnes questions.
Mm-hmm. Sergina, pour le bénéfice des auditrices et auditeurs, explique-nous concrètement quelle est la différence entre comme travailleur autonome et entrepreneur.
En fait, c'est sûr que être travailleur autonome, on prend beaucoup plus de risques dans le sens où, par exemple, si les travailleurs autonomes ont beaucoup de difficultés à aller chercher du financement pour, je sais pas moi, leur hypothèque.
Oui.
Pour s'assurer, c'est toujours compliqué. C'est sûr que quand on est travailleur autonome, bon, on se vend soi. Donc, c'est vraiment un entrepreneur individuel.
Oui.
Donc, on vend ses services en tant que X. Donc, c'est sûr que même si beaucoup de travailleurs autonomes ont des collaborations avec d'autres, la plupart du temps... on vend ses services. Donc, on est consultant, on est pigiste, on est peu importe en quoi, mais c'est souvent, on se vend soi.
OK.
Tandis que, premièrement, quand on est une entreprise incorporée, qu'on va voir une banque, on a un discours très différent de la banque. La banque préfère avoir des entrepreneurs incorporés que des travailleurs autonomes parce que pour une banque, c'est plus risqué, les travailleurs autonomes.
Okay.
Alors que... C'est quand même assez fou parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même plus de 500 000 travailleurs autonomes au Québec.
OK.
C'est énorme le nombre de personnes qui, justement, ça, c'est les chiffres avant la pandémie. Après la pandémie, ces chiffres-là ont explosé.
Sûrement,
tout le monde s'est dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant de ma vie? Il y en a plein qui sont devenus travailleurs autonomes. Et malgré tout, il n'y a pas vraiment de structure pour aider les travailleurs autonomes à atteindre leurs objectifs.
Oui.
Donc, que ce soit au niveau des assurances, que ce soit au niveau des services financiers, que ce soit... Il y a beaucoup d'informations différentes qui circulent. Quelle est la bonne information? Donc, bref, c'est quand même le parcours du combattant. De plus en plus d'organisations commencent à mettre en place des programmes pour les travailleurs autonomes.
Oui.
Mais... il y a quelque chose de plus à faire effectivement.
Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a un montant annuel pour les travailleurs autonomes qu'on ne peut pas dépasser ou...
En fait, il n'y a pas de montant annuel à ne pas dépasser. Les travailleurs autonomes, c'est sûr qu'ici au Québec, pour avoir... c'est sûr que si on fait moins de 30 000 annuels, on n'est pas obligé d'avoir un numéro de TPS et TVQ.
D'accord, ouais.
Par contre, un travailleur autonome peut gagner 100 000 s'il veut. Là, je veux dire, c'est lui qui fait son salaire. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle.
Okay.
Mais c'est sûr qu'au niveau des impôts, c'est au travailleur autonome de mettre de côté l'argent pour payer ses impôts. Parce
exactement,
que c'est ça,
pour les déductions et tout.
Exact.
Ouais.
Donc, c'est...
Sergina, si je te demandais... est-ce que tu referais ce parcours-là? Tu aurais le même parcours ou il y a des choses que tu changerais?
Oh, je pense que je referais exactement le même. Je pense que je referais exactement le même parce que c'est sûr, ça n'a pas été facile tout le temps.
Tout à fait.
Mais c'est ce qui fait que ça m'a formée, ça a forgé mon caractère et que je suis où je suis aujourd'hui. Donc, je ne pense pas que je changerais quoi que ce soit. Je le ferais peut-être plus vite, non, je ne sais pas. Mais non, je ne pense pas que je changerais quoi que ce soit.
Puis, comme tu le disais aussi précédemment, c'est que tu apprends aussi de chaque écueil, si on peut dire, parce que tu renais toujours finalement de tes cendres.
Exact, oui, c'est vrai, tout à fait.
OK. Alors, de retour dans quelques instants.
Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore.
Toujours en compagnie de Sergina Guéry, présidente fondatrice de l'agence Événementiel. Alors, Sergina, ton agence Événementiel, avec un C, I-E-L, a réalisé de grands événements, tels que la conférence d'Hillary Clinton. Puis, oui. J'aimerais savoir, pour arriver à ce niveau d'organisation d'événements, est-ce que ça prend un réseau de contacts? Comment tu es arrivée là? Puis j'en passe là, il y a tellement de oui. grands événements qui ont été organisés par l'agence événementielle. Donc, explique-nous comment on arrive là.
Oui, écoute, c'est sûr que le réseau, c'est hyper important. La chance que j'ai, c'est évidemment... De ne pas rester dans le domaine communautaire aussi. Moi, le réseau que j'ai, c'est, je veux dire, il est québécois, il est multiculturel. Moi, peu importe la personne, je veux dire, mm-hmm. j'ai la chance d'avoir un très beau réseau. Quand Hillary Clinton, parce que c'était dans le cadre de sa tournée mondiale oui, oui. pour le lancement de son livre « What Happened », c'était mm-hmm. justement juste après sa défaite contre Donald Trump. Oui. Elle a écrit son livre. Puis nous, on s'est vraiment occupés uniquement quand même, de l'événement à Montréal au Palais des Congrès. Il faut mm-hmm. savoir que c'était la Chambre de commerce qui s'était occupée du déplacement oui. d'Hillary Clinton, tout ça. Donc, nous, on est venus parce qu'ils avaient des besoins logistiques pour l'événement au Palais des Congrès. Puis écoute, c'est vraiment, quand je dis que le réseau, c'est important, c'est que justement, la personne qui a interviewé Hillary Clinton, qui oui. s'appelle Caroline Cozzi, okay. qui est la présidente mm-hmm. de la gouvernance au féminin, qui était dans ton émission d'ailleurs
oui, tout à fait,
il y a quelques temps. Puis c'est elle qui a donné mon nom, en fait, mm-hmm. À l'équipe. Et qui disait, OK, je pense que vous avez besoin d'aide pour l'organisation de l'événement. Je pense que j'ai quelqu'un qui pourrait vous aider. Puis c'est là où elle m'a mise en contact D'accord. avec les organisateurs. Et que là, finalement, ça s'est fait. Puis on répondait à ce à quoi ils s'attendaient. Mm-hmm. Puis qu'on a signé tout ça et qu'on a fait oui. cet événement-là. Mais c'était vraiment un événement... Moi, c'était la première fois que j'avais les services secrets américains oui, oui, oui. dans une salle. Ils lâchent les chiens dans la salle pour oh. vérifier s'il y a c'est même pas de la drogue, la bombe et compagnie. Ah, les chiens oui, sont oui. Élevés pour détecter ce genre de choses. Puis mm-hmm. quand les services secrets sont là, personne ne peut rentrer dans la salle, sortir de la salle. Tout le monde doit attendre. Mm-hmm. Ils avaient fait ce qu'on a un background check. Il fallait envoyer les CV okay. de mm-hmm. tout le monde, évidemment, pour la sécurité. Mais en tout cas, tout s'est super bien passé. Puis j'ai pu discuter un petit peu très, très oui. rapidement avec Hillary Clinton. Très drôle. C'est ça qui m'a étonnée. Mm-hmm. Une femme très drôle.
Très accessible.
Oui, accessible. Ouais. Rien à voir avec l'image que nous projettent les médias, mm-hmm. mais bref, donc c'est sûr que maintenant, ça c'est un des événements sur lesquels j'ai travaillé, mais il y en a plein d'autres où j'ai rencontré ouais. aussi des personnalités qui sont quand même non négligeables, on va dire. Mm-hmm. Puis c'est sûr qu'ensuite, quand on met ça dans un portfolio et quand j'arrive quelque part et qu'on me dit oui mais ok vous avez une agence c'est bien mais qu'est-ce que vous faites comme événement, c'est sûr que quand je dis j'ai organisé par exemple le sommet mondial des anges investisseurs, c'est comme ah ok ah mm-hmm. oui j'ai travaillé sur l'organisation de l'événement d'Hillary Clinton à Montréal, ah ok, donc au niveau crédibilité je pense que ça aide.
Ouais. Puis il y a quelque chose aussi que tu me disais, c'est que les agences sont cotées par au niveau des salles. En tout cas, explique
ah,
ça.
Ah oui,
c'est,
oui, oui,
c'est
oui.
quand même quelque chose.
Ça, c'est c'est vraiment quelque chose que peu de personnes, même en événementiel. Je pense qu'en événementiel, c'est quand même connu. Mais quand on organise un événement et qu'on est dans un lieu, il mm-hmm. faut savoir que les lieux notent chaque organisateur d'événement.
Oui.
Est-ce que c'est facile de travailler avec eux? Est-ce qu'ils laissent les salles dans un bon état? Est-ce que c'est mm-hmm. propre? Est-ce que... Il y a beaucoup de critères.
Oui.
Peu importe la salle, hein, que ce soit des salles d'hôtel, que ce soit mm-hmm. le palais, peu importe. C'est vraiment... c'est quelque chose d'interne.
Oui.
Et c'est juste pour savoir, OK, est-ce que c'est agréable ou pas de travailler avec telle équipe?
Avec telle agence, c'est ça.
Parce que c'est sûr que nous, quand on revient quelque part, si l'expérience ou les expériences précédentes étaient bonnes,
oui.
c'est sûr qu'on a plus de chances de retravailler avec les équipes. Mm-hmm. Donc, nous, c'est très important qu'on ait de bonnes relations avec nos partenaires, nos oui. fournisseurs, tout oui. ça, les salles d'événements. Donc, je pense que c'est pour ça aussi, de fil mm-hmm. en aiguille, que tu sais, souvent, on nous réfère. Nous, on ne fait pas de publicité, c'est les gens qui nous réfèrent. Donc,
oui.
Finalement, on fait notre petit chemin.
Ouais, c'est incroyable. Sergina, tu es présidente de fondatrice d'événementiel, mais tu as aussi tes propres projets personnels.
Oui.
Pourrais-tu nous en parler?
Oh mon Dieu, j'en ai tellement, mais oui. je pourrais parler de deux projets sur lesquels je travaille justement. Le premier, c'est le Festival Soleil d'hiver, en fait. C'est un très beau festival. En fait, c'est le festival du Sud qui réchauffe l'hiver à Montréal. Mm-hmm. Étant donné que je viens de la Guadeloupe, que j'ai un cœur ensoleillé, puis généralement, les Antillais sont comme ça.
Oh,
on est joyeux, on danse, on chante. Et on s'est rendu compte qu'en hiver, c'était la période la plus difficile
mentalement creuse.
Les gens sont tannés, comme mm-hmm. on dit ici. Donc, le Festival Soleil d'hiver, c'est vraiment d'amener des vacances en plein cœur de l'hiver.
Okay.
Donc, c'est comme si on amenait le Sud en plein cœur de l'hiver. Donc, la prochaine édition aura lieu en mars, début mars, au marché Bon Secours de Montréal.
Mm-hmm.
Donc, évidemment, de la danse, de la musique, des défilés de mode, une ambiance tropicale, des exposants, tout ça. Et je parle du Sud, oui, il y aura la Guadeloupe, il y aura la Martinique, il y aura Haïti, il y aura d'autres destinations comme Cuba. En tout cas, c'est vraiment le Sud en général qui est représenté. C'est comme si toutes les destinations soleil sont les bienvenues. S'il y en a que je n'ai pas nommées, n'hésitez pas à me contacter. Ça me ferait plaisir. Il y aura des exposants, des partenaires. Ça, c'est vraiment un événement, je dirais, pour rendre les gens plus heureux.
Oui.
Donc, pour apporter plus de joie. Et le deuxième événement, écoute, c'est très drôle parce que justement, on a parlé de travailleurs autonomes
oui.
Tout à l'heure. Puis, en fait, ça va être le premier salon des travailleurs autonomes qui se déroulera en octobre au Palais des Congrès.
Okay. Mm-hmm.
Pour justement, premièrement, réunir tous les travailleurs autonomes dans un même lieu pour qu'ils aient accès à des services, à des conseils. Il y a beaucoup de discussions à avoir au niveau du statut de travailleur autonome.
Mm-hmm.
Souvent, les gens pensent que, OK, quand on est travailleur autonome, c'est parce qu'on ne trouve pas d'emploi, on ne fait pas beaucoup d'argent. Non, non. Il y a des gens qui gagnent plus de 100 000 en tant que travailleur autonome.
Oui, oui.
Il y a des gens, je veux dire, les espaces de coworking, il y en a plein. Les gens voyagent maintenant, ils travaillent mm-hmm. de l'étranger, ils reviennent. Il y a énormément, il n'y a pas un seul modèle. Donc, le salon, en fait, ce sera vraiment le lieu pour discuter de tout ça, pour voir les possibilités, les opportunités. Puis, c'est sûr que c'est ouvert aussi à des exposants, des partenaires, peut-être même que mm-hmm. là, ils trouveront des services auxquels ils n'ont même pas
oui,
pensé.
Oui.
Donc, on est en train de travailler là-dessus.
Hey, c'est génial.
Ce sont des beaux projets. Puis, effectivement, je pense que la pandémie m'a montré qu'il fallait que, oui, je pense que ça a été un déclic,
mm-hmm.
que oui, j'ai des clients
oui.
pour qui j'organise des événements, mais qu'il fallait que moi aussi, je crée mes propres événements. C'est vraiment la pandémie qui m'a fait me rendre compte que, OK, non, là, OK, tu organisais des événements
pour les autres.
Oh, ouais. Puis toi,
qu'est-ce que tu as envie de faire?
Qu'est-ce que tu as envie de faire
exactement,
vraiment? Donc, ce sont ces deux projets-là qui sont sortis du lot.
Ben oui.
J'en ai plein d'autres, mais ce sont ces deux-là qui
ces
sont
deux-là
sur
qui
la
sont,
table.
Oui,
oui exactement.
Ben, puis les deux te ressemblent aussi, le Festival Soleil
oui.
d'hiver, de par ta personnalité chaleureuse et tout. Donc,
Merci.
Tu veux amener cette chaleur-là
oui.
aussi au creux de l'hiver.
Plus de joie.
Plus de joie, c'est ça. Puis travailleur autonome, tu l'as connu pendant quand même plusieurs années. Donc, t'es à même de savoir les manques, qu'est-ce qui te freinait et tout.
Puis même, je travaille encore avec beaucoup de travailleurs autonomes.
Oui.
Puis je vois, je veux dire, juste les assurances. Je veux dire, ça fait même pas de sens. Puis il y a tellement de choses à faire.
Mm-hmm.
Puis je trouve que le gouvernement devrait... En tout cas, je lance l'appel au gouvernement s'il écoute l'émission. Mais il y aurait quelque chose à faire pour les travailleurs autonomes.
Ouais,
vraiment,
ouais.
On pense souvent aux entrepreneurs, ceux qui ont... Il y a beaucoup de financement pour les entrepreneurs, beaucoup de subventions, des choses comme ça. Mais on oublie qu'avant de devenir entrepreneur, beaucoup d'entrepreneurs qui ont des entreprises incorporées, je parle, ont été travailleurs autonomes. Donc, quelque part, c'est un chemin vers l'entrepreneuriat, puis qui demanderait peut-être d'être un peu plus valorisé, je dirais.
Oui, et puis Sergina, avec tout ça, hein, tout ce que tu nous as déjà raconté que tu oui. faisais, tu as quand même le temps de siéger sur des conseils d'administration, oui. dont celui de la Caisse des Jardins.
Oui!
Alors, pourquoi c'était important pour toi, avec tout ce que tu fais déjà, de t'impliquer oui. aussi comme citoyenne?
Et écoute, moi, je demande toujours plus, hein, jamais assez. Oui, j'ai la chance de siéger sur le conseil d'administration de la Caisse des Jardins du Vieux-Longueuil, puis c'est tout nouveau, ça a débuté cette année. Mm-hmm. Puis, écoute, c'est extraordinaire de pouvoir être assise autour d'une table où les administrateurs font des choix pour la communauté.
Oui.
Moi, je trouve ça exceptionnel de faire partie mm-hmm. Des personnes qui sont consultées parce que en tant que femme, en tant que minorité visible, en tant qu'immigrante, même si, bon, ça fait longtemps que j'ai ma citoyenneté, mais quand même,
oui.
Pour moi, c'est important d'avoir une voix. Donc cette voix-là, je l'ai au niveau du conseil de la Caisse des Jardins, du Vieux-Longueuil.
Oui, oui.
Mais je siège aussi sur un autre CA, j'en ai deux en fait,
ah, oui,
en ce
okay.
moment. Oui, je siège aussi sur le CA du Théâtre Motus, ça c'est mon petit côté culturel mm-hmm. Qui fait vraiment des marionnettes géantes pour les enfants. Donc okay. ce sont des spectacles pour les enfants, puis ça complète un peu. Donc tu vois, j'ai mon côté, oui, gestionnaire. Mais en même temps, toujours un petit peu de culture, un petit peu d'art, un peu de...
Oui, oui, oui.
Je pense que c'est un bel équilibre, en tout cas pour moi.
Ben écoute, on s'en va vers une petite pause et puis on va poursuivre avec Sergina Guéry.
Merci.
Run away. Qui j'en s'appelle?
Me voici de retour avec Sergina Guéry, présidente fondatrice de l'agence événementielle. On vient d'écouter la chanson « Zouk, là, c'est seul médicament nouli ».
Oui.
Alors, qui veut dire que le zouk, la danse, c'est le seul médicament qui nous fait du bien.
Exactement. C'est le groupe Cassave.
Cassave.
Puis Jacob Desvarieux qui est décédé
il y a quelques temps.
Mais écoute, cette chanson me donne de l'énergie.
Ah oui,
c'est incroyable. Ouais. Puis quand on est down, un peu de musique, un peu de danse, puis tout va mieux.
Tout va mieux, on change d'énergie.
Exact.
Donc alors, Sergina, là, je t'amène dans un autre endroit. Donc, tu as un conjoint, tu as de la famille en Outre-mer. Quelle place prend la famille pour toi?
Ah, une place très, très importante. Il faut savoir que nous, on est une famille internationale dans le sens où ma mère, elle vit encore en Guadeloupe. J'ai une de mes sœurs, Leïla, qui vit ici à Montréal. Mais deux autres de mes sœurs vivent en France métropolitaine. Donc, une à Courbevoie, qui est très proche de Paris, et une autre à Toulouse.
Oui.
Donc, ma mère, elle est seule en Guadeloupe, puis les quatre filles sont...
éparpillées,
mais étrangement, on est tellement unis. Mm-hmm. On se parle tout le temps sur WhatsApp, on se fait des vidéos, des appels en visioconférence. On sait qu'on peut compter les unes sur les autres, même mon oncle, ma tante, mon beau-père, je veux dire, les liens familiaux sont très forts. Et mon conjoint, qui est québécois, Alain, en fait, lui, c'est très drôle parce que j'ai retrouvé ces mêmes valeurs familiales chez lui.
Ah oui,
quand je l'ai rencontré, je me suis rendu compte que la famille avait une grande place dans sa vie. Puis d'ailleurs, sa famille, moi, au début, je lui disais, oui, mais... Ils savent que je suis noire. Quand il me disait, je vais rencontrer ta famille, tu vas rencontrer ma famille, c'est comme, oui, mais tu leur as dit, hein, parce que des fois, on voit des films où c'est comme le gros choc. Tu leur as dit, hein, puis tu leur as dit que j'avais aussi les cheveux blonds courts, juste pour... oui, donc, drôle, mais finalement, c'est très drôle parce que ses sœurs, ses parents, tout le monde m'a accueilli vraiment. Écoute, à bras ouverts, ils sont... tellement, tellement gentil. Il n'y a eu aucun blocage. Ses enfants aussi, les enfants d'Alain, parce qu'il a des jumeaux, un garçon et une fille. Puis ma fille, moi, Jalia, s'entendent super bien. Mm-hmm. Donc, en tout cas, sérieusement, je touche du bois. Mais vraiment, je pense que la famille, c'est essentiel.
C'est ça, c'est ce qui vous a lié, quoi.
Oui, complètement, parce que quelque part, oui, on travaille fort, oui, on fait des... Quand ça ne va pas, c'est pas le travail qui réconforte.
Non, ça c'est sûr.
Quand ça ne va pas, il faut avoir des gens sur qui compter, la famille, les amis très proches, parce qu'on passe tous par des moments difficiles où on pense qu'on ne se relèvera pas et que c'est la fin du monde. Puis ce qui m'a aidée, c'est toujours, toujours ma famille et mes amis.
De te retrouver.
J'ai des personnes qui sont mes amis, que je considère comme ma famille. Donc c'est ça, c'est très, très, très important pour moi. Puis je trouve justement qu'au Québec, un peu comme aux Antilles, le lien familial est fort.
Oui.
J'allais comparer avec la France, mais bon, je dirais plutôt Paris. Paris, je trouve que c'est un peu moins fort. Il y a un peu une plus grande distance.
Oui.
C'est ce qui n'est pas le cas du reste de la France. Mais en tout cas, c'est ça. C'est plus une expérience que je partage. Mais oui, la famille, c'est essentiel.
C'est ça. Comme dit l'expression québécoise, c'est tricoté serré.
Oui, c'est ça, exactement.
Alors, tu parlais d'Alain, ton conjoint. Hein,
oui.
Okay. Alors, il travaille avec toi, puis est-ce que c'est facile de concilier le partenaire d'affaires, le conjoint, l'amoureux? As-tu une recette facile à donner aux éditrices?
Oh mon Dieu, OK. Alors, non. Mais en fait, oui, on travaille ensemble. On ne travaille pas ensemble sur tous les projets parce que, justement, on se laisse une chance d'évoluer aussi séparément. On a quelques projets qu'on fait où on collabore. Mais je te dirais qu'il y a eu une phase où, parce qu'on est tous les deux leaders, donc à un moment donné, c'était « OK, oui, mais ça c'est mon client, je t'implique. » Puis lui, il me dit « Oui, mais ça, c'est mon client, puis je t'implique. » Puis à un moment donné, c'est qui prend les décisions, puis on aime tous les deux la stratégie, on aime tous les deux les rencontres clients. Puis parfois, c'est comme, ça a été parfois difficile, surtout au début, parce qu'on ne savait pas les limites, nos limites, de chacun. Et je dirais que c'est très drôle parce que ce que le temps m'a appris, en fait, c'est que, tu sais, quand tu vis avec quelqu'un et que tu as des projets, tu vois, la journée se termine. Donc là, on n'est plus en mode travail, on est en mode famille, amoureux, tout ça. Puis, c'est là où il décide de me parler de projets et limite de me dire quoi faire pour tel projet. Non! C'est pas le moment. Donc, ça a été d'établir de savoir dire non, en fait, de donner ses limites, que ce soit lui de son côté, que ce soit moi du mien, puis d'être capable de se dire, OK, non, c'est chérie, là, je pense qu'on ne parle plus de travail.
C'est ça.
Je suis avec toi, mon conjoint. Puis, passons un moment. Puis, je dis ça de lui, mais moi aussi, je faisais la même chose.
C'est ça,
c'est pas juste lui. Puis, parce que moi aussi, parfois, quand j'avais un gros projet, puis que je voulais avoir un petit peu son avis ou ses conseils et tout ça, puis c'est lui qui me disait, ah non, on parle pas de travail.
C'est ça, Est-ce que ce serait comme un engagement commun que si l'autre prend trop d'espace dans la partie plus familiale?
Oui.
Et tout, est-ce qu'il y a un engagement commun entre vous?
Oui, en fait, il n'est pas officiel, cet engagement-là, mais c'est très drôle parce qu'aujourd'hui, il savait que je venais te voir à ton émission.
Oui.
Puis ce soir, c'est drôle parce que j'ai un conseil d'administration, justement, de Desjardins.
Oui.
Puis il m'a dit, mais tu sais, chérie, dis-moi si tu veux que je fasse quelque chose pour toi. Est-ce que tu rentres à la maison avant? Est-ce que tu veux que je te fasse à souper? Puis j'étais comme, oh, c'est tellement cute! Non, mais j'ai trouvé ça tellement...
Oui, oui.
C'est des petites attentions qui font que, OK, parfois, c'est lui qui est débordé, donc c'est moi qui lui donne un coup de main s'il a besoin. Mais là, c'était l'inverse.
Oui.
C'est moi qui cours à droite, à gauche. En plus, là, en fin d'année, on a beaucoup d'événements.
C'est
donc, ça bouge beaucoup. Puis c'est lui qui me dit, ben écoute, si tu as besoin que... Je vais être ton chef cuisinier.
Ah, génial!
donc, c'est un équilibre.
Un équilibre dans ce sens-là.
Donc, je le garde.
Oh,
je le garde.
Il va aimer écouter l'émission. Donc, comment vous vous ressourcez est-ce que vous voyagez beaucoup?
Oui. Ça, c'est essentiel d'avoir des coupures.
Mm-hmm.
On voyage beaucoup. Nous, on est des grands aventuriers. Lui, c'est sûr qu'il voyage plus que moi. Lui, il aime partir en sac à dos, se déconnecter. Mais on essaie vraiment de voyager. Ma fille aussi, Jalia, qui a 14 ans, qui vient d'avoir 15 ans. Elle vient juste d'avoir 15 ans. Elle aussi, elle a la piqûre du voyage. Elle aime ça voyager. Puis le fait de rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, goûter à des nouvelles choses, voir d'autres paysages, quelque part, c'est ce qui fait que on arrive à se revitaliser et ne pas avoir l'impression qu'on est tout le temps dans une routine qui n'en finit plus. Mais je dis voyager, oui, parfois on voyage, on prend l'avion, mais ça peut être à travers le Canada, ça peut être d'aller dans un chalet, de traverser la frontière en voiture pour aller, Plattsburgh.
Ah oui.
C'est vraiment des Le voyage.
Oui. Ça vous permet de vous libérer et tout ça. Sergina, si je te demandais, comme pour ton agence événementielle, quelle serait ta vision pour cette agence-là, comme disons dans une dizaine d'années? Comment tu vois?
Oh, mon Dieu! C'est une bonne question, ça. Comment je vois événementielle dans une dizaine d'années? Avec beaucoup de projets créatifs. Moi, je dis moi, puis mon équipe, c'est très drôle parce que justement avec l'équipe, on se dit souvent... On a la chance c'est ce que je leur dis, d'aller chercher ce qu'on veut comme client, comme projet. Et puis, je leur dis, c'est quoi les projets sur lesquels on s'éclaterait?
Oui.
Est-ce que c'est, dans la mode, dans les cosmétiques, dans des fondations? Puis, je pense que c'est de créer des événements très créatifs et qui sont là pour durer, c'est-à-dire de faire... c'est sûr que c'est de Montréal, ça m'inspire beaucoup comme type d'événement parce que c'est tellement extraordinaire l'expérientiel qu'ils ont réussi à mettre en place, tout ça. C'est sûr que c'est un modèle pour moi, mais de créer des événements qui ont du sens, qui répondent aussi à des besoins, faire partie, je dirais, de créer des événements qui font partie des événements majeurs, des grands événements de Montréal.
Okay,
tu sais, il y a des événements comme le Festival de jazz, Juste pour rire, Montréal en lumière. Tu sais, je pense qu'il y a 12 événements majeurs à Montréal qui sont énormes et qui attirent de la clientèle à l'international. Je dirais que mon objectif, ce serait de créer un, pourquoi pas deux, mais en tout cas de faire partie
des
événements majeurs à Montréal.
Oui.
Non.
Très belle vie.
Rien que ça.
C'est ça. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que tu as un message que tu aimerais partager avec nos auditrices pour qui leur donnerait justement cet élan s'ils veulent se lancer en affaires?
Je dirais, mon Dieu, Oui, à partager aux auditrices, puis aussi à moi, parce que
oui. Bon,
c'est sûr que je dirais de s'écouter. Mm-hmm. De s'écouter, d'avoir l'audace de faire des choses qu'on ne ferait pas, de se faire confiance beaucoup, de se donner du temps à soi-même. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Parce que souvent, on travaille,
oui.
On ne s'aime pas. C'est drôle, la chanson qui a joué au tout début de Whitney Houston,
mm-hmm.
qui disait qu'il fallait d'abord s'aimer soi-même,
oui.
pour aimer les autres ensuite.
Mm-hmm.
Mais c'est vraiment de... Oui, avoir de l'ambition, partager son ambition parce qu'il ne faut pas avoir honte d'être ambitieux. Ça,
oui.
ça, c'est quelque chose de très important. Puis, je dirais de le manifester, de le dire. Si on veut atteindre un poste, il ne faut pas le garder à l'intérieur de nous-mêmes parce qu'il n'y a pas des gens dans notre tête qui vont savoir « Ah, elle aimerait, sais pas moi, siéger sur telle chose,
mm-hmm.
ou avoir telle promotion. » Il faut le partager et je me suis rendu compte qu'en le partageant,
oui.
ben, quelque part, ça se crée. Et souvent, il y a quelqu'un qui dit, ça m'est arrivé tellement souvent, des personnes qui me disent, tu m'avais parlé de telle idée, il faut que je te mette en contact avec telle personne qui fait telle chose, je pense qu'il y a un lien.
Donc,
c'est
comme, créer...
oh my God, c'est ça, de ne pas avoir peur de le formuler ben, aux bonnes personnes. C'est sûr que bon,
ouais.
c'est pas non plus, il ne faut pas te donner, vendre tes idées. mais oser.
Oser.
Oui.
Alors, sous ces mots d'inspiration, merci Sergina Guéry.
Merci beaucoup,
d'avoir accepté mon invitation et d'avoir surtout nous démontré par ton parcours que la détermination nous permettait de grimper des montagnes. Alors, je rappelle que mon invitée est Sergina Guéry, présidente fondatrice de l'agence événementielle. Ceci met fin à notre émission. Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde. Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Alors ici Marjorie Théodore qui vous dit à la semaine prochaine.
Merci tout le monde.